Bonsoir, bienvenue sur ND Chaîne, un peu à la bourre, mais toujours là. Et ce soir, une émission sur les violences policières, et on va commencer par reparler un peu de ce qui s'est passé à Sivens dans le Tarn. Et pour commencer, présenter un peu qu'est-ce que c'est que ce projet de barrage dans le Tarn, dans la vallée du Tescou. Voilà, et donc ça dure depuis une trentaine d'années en fait que cette vallée aiguise l'appétit des services d'aménagement du territoire. Et donc il s'agit de construire un barrage qui est destiné principalement à l'irrigation du maïs. Voilà, pour une maïsiculture polluante, gaspilleuse d'eau, mais massivement subventionnée. Comme dans tous les grands projets, la construction du barrage serait aussi le moyen de produire artificiellement de l'activité économique, grâce à l'argent public qui sera investi. Et donc, ce qui va avec l'activité économique, c'est-à-dire profit privé et conflit d'intérêts. Au lieu-dit du Testet, dans la forêt de Sivens, il y a un premier collectif qui s'est formé en 2011 pour lutter contre le projet de barrage. Il regroupait des associations de défense de l'environnement et dénonçait la destruction de la biodiversité remarquable de ce lieu. Ils ont alors déposé des recours en justice, mais sans attendre les jugements sur le fond, la préfecture autorise le début du chantier en octobre 2013. C'est alors des militants qui sont regroupés en un second collectif qui décident d'occuper le site et retardent le début des travaux de près d'un an. Malgré leur détermination, le chantier commence en septembre 2014 par la destruction d'une trentaine d'hectares sous haute protection militaire. Les décideurs passent en force, ce qui donne lieu à de nombreuses violences policières. Au nombre des violences policières, il n'y a pas eu une nuit sans qu'il y ait occupation, répression.
Et puis ouais, depuis deux mois, ils n'ont pas arrêté les... Les gendarmes mobiles n'ont pas arrêté de venir sur le campement pour y balancer des grenades, faire des blessés, entretenir un climat de tension et détruire du matériel. Et dans la nuit de samedi 25 octobre, pendant une manifestation sur le site de ce chantier, il y a un jeune militant de 21 ans qui est mort suite à un tir de grenade offensive d'un gendarme mobile. Et ça n'a rien d'exceptionnel, même si elle aboutit pas forcément à la mort. La répression de l'État, elle est fréquente dans toutes les luttes sociales, dans les grèves, dans les manifs, dans les blocages. Et la majorité des populations pauvres la subit au quotidien. Rave de sans-papiers, contrôle musclé au faciès, expulsion, bouclage des quartiers, fichage. Et cette banalité de la violence policière, elle ne doit pas non plus nous la faire accepter. Et partout en France, ça réagit contre les violences policières.
Et tout de suite, on va écouter un petit extrait de l'émission Zabzalap de Lille. Qui parle un peu de ses différentes réactions et qui revient aussi un peu sur ce qui s'est passé dans la nuit où Rémi est décédé au Tessin.
Rémi Fraisse a été assassiné par la police lors d'une manifestation dans le Tarn, à la ZAD du Testé. Depuis, les manifs s'enchaînent partout en France, et même au-delà, malgré la répression et les tentatives de division opérées par les politiciens et leurs relais médiatiques. Tout de suite, écoutons la manif parisienne du 2 novembre, où plus de 500 personnes ont tenté de se rassembler malgré un dispositif répressif impressionnant. 97 fourgons, plus de 600 gardes mobiles et CRS, et de très nombreux policiers en civil ont quadrillé toute la journée le quartier de Stalingrad pour empêcher le rassemblement en hommage à Rémi.
En ce moment, à Sivens, on dénombre plusieurs blessés au flashball, des tirs de grenades et des matraquages en règle. Les policiers sont allés jusqu'à jeter une grenade à l'intérieur d'une caravane où se trouvaient des gens. Aux frontières de l'Europe, des gens meurent tous les jours en essayant d'échapper à la police. À Lampedusa, on compte 3300 morts noyés depuis 2002. Dans les quartiers populaires, la violence de la police est quotidienne. Elle s'exprime par le bouclage des quartiers, les contrôles aux faciès, les expulsions, les rafles de sans-papiers. Les blessures et mutilations ne se comptent plus. On dénombre plusieurs morts chaque année. À chaque fois, des collectifs se montent et luttent contre la violence de la police et son impunité. Hier soir, une personne a encore perdu un œil à Blois suite à un tir de flashball. La mort de Rémi nous ramène à toutes ces réalités. Luttons pour Rémi, luttons pour tous les autres. Que défend la police? Ce sont bien sûr les grands projets utiles au capitalisme et nuisibles aux gens et à leur environnement, qu'il s'agisse de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou du Grand Paris. Dans la violence, la police maintient l'ordre établi. Cet ordre sert les intérêts des puissants, des riches, des gouvernants, des patrons, des banques. Il dessert celui de tous les autres, des précaires, des pauvres, des prolétaires, des personnes racisées, des femmes. Et quand l'individualisme a échoué, quand la solidarité et la révolte s'organisent et gagnent du terrain, la police n'hésite plus à emprisonner, blesser, réprimer, mutiler, tuer. Résistons ensemble, une voiture qui brûle, un patron séquestré, une occupation de la CAF, une bouteille d'eau jetée, un fauchage OGM, une réquisition de logements vides, sont autant d'actes de révolte et de colère légitimes. Le pouvoir les qualifie de violents. Comment qualifier alors les blessures, les mutilations et les meurtres de la police? Sans parler de la violence économique qui nous est faite à tous. Les journalistes et les politiciens séparent les bons des mauvais manifestants, les violents des non-violents. La réalité des luttes, c'est qu'il y a de nombreuses manières de lutter, chacun selon ses moyens et ses colères. La réalité, c'est aussi que les armes de la police ne font aucune distinction entre les manifestants. Nous devons tous nous protéger et nous organiser afin de nous défendre. La violence policière répond à l'ampleur de nos luttes et à l'inquiétude du pouvoir face à une contestation grandissante. À Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement a déjà reculé. À Paris, c'est la deuxième fois en quelques mois que le gouvernement interdit une manifestation. Partout, les gens s'organisent et résistent. Ne nous laissons pas gouverner par la peur. Ne les laissons pas nous diviser. C'est ensemble que nous construirons une lutte à la hauteur de la mort de Rémi. Lorsqu'ils tuent l'un d'entre nous, ils nous disent que notre vie n'a aucune valeur. Prouvons-leur que prendre une de nos vies leur coûtera très cher.
Les affrontements ont commencé dans l'après-midi de samedi, vers 16h, au lieu dit les Bouilles. De nombreux camions de CRS et de gardes mobiles sont arrivés en renfort sur la zone. Les affrontements ont fait une dizaine de blessés, dont 5 ont été évacués vers l'hôpital. Parmi eux, une personne a reçu un tir de flashball dans la figure. Le SAMU, appelé par l'équipe de secours d'urgence des opposants, a refusé de venir sur place. Après une accalmie vers 21h, les affrontements ont repris dans la nuit. Les gardes mobiles étaient positionnés au lieu dit des Bouilles, derrière la grille. Voici des témoignages recueillis dimanche matin. Une personne dit avoir vu Rémi Fraisse être touché par une grenade et tomber. Entre 2h et 3h du matin, il y a eu des tirs tendus de grenades lacrymogènes incapacitantes et explosives. Des grenades dites de désencerclement. La scène était éclairée par les lumières des phares des camions de gardes mobiles. À un moment, après un lancer massif de grenades, un groupe de gardes mobiles s'est avancé sur la dalle de béton, a attrapé une personne à terre et l'a portée près de la route. Cette personne était à 2-3 mètres du grillage. Elle a pu recevoir une grenade en tir tendu. On pensait que c'était une interpellation. Les affrontements ont continué jusqu'à au moins 4 heures du matin. un moment, lors des affrontements nocturnes, il y a eu une grosse salve de grenades lacrymogènes et de grenades assourdissantes. 10 gardes mobiles ont ramassé un mec qui était au sol et l'ont traîné, puis porté jusque sur la route. Quand je suis rentrée au campement, à 1,5 km de là, il était 5h moins le quart, il y avait encore des tirs de grenades. J'ai passé la soirée et la nuit sur le lieu des affrontements. Il y avait des tirs dans tous les sens. Vers 3h du matin, il y a eu une charge. Les gardes mobiles se sont avancés sur 10 mètres sur la route. Ils ont chargé à une vingtaine et tiré des lacrymos. C'était à droite, sur le lieu des affrontements. Sur la gauche, les flics se faisaient caillasser près du grillage sur la dalle en béton. Il y a eu des tirs de grenades, puis j'ai vu un gars au sol se faire traîner en arrière, tenu de part et d'autre par les flics. Après ça, il y a eu un écran de fumée, ils sont retranchés et les tirs de grenades se sont calmés. Plus tard, on a vu des lumières bleues d'ambulance. Il y a eu un blackout. Les lumières des phares des camions de garde mobile ont été éteintes. Il y avait deux camions dont les phares étaient allumés. Puis ils ont recanardé un max. Plus tard dans la nuit, il y a encore eu une énorme charge avec une vingtaine de lacrymos tirés. Ça fait un gros nuage de fumée. Quand la fumée s'est dissipée, tous les camions de garde mobile étaient partis. Au cours de la nuit, il y a eu plusieurs blessés, environ une dizaine dont 5 ont été évacués. À partir de 3 heures avant la fin des affrontements, il n'y avait plus de sommation avant les tirs de grenades. Il était à 30 mètres de moi sur ma gauche. Je l'ai vu se faire toucher, alors qu'il y avait des explosions à côté. Ils ont envoyé des grenades explosives, des tirs de flashball. Après, cette personne s'est retrouvée à terre. Il y a eu une charge de flics, j'ai chargé aussi, mais je me suis retrouvée tout seul, du côté gauche. Mais tout le monde est arrivé trop tard, ils ont mis en joue ceux et celles qui y arrivaient. J'ai vu ce gars à terre se faire traîner par les policiers, et on n'a pas pu en savoir plus.
Police, 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 police Rémi Fraisse. Eh oui, enfin, on décide à en parler un peu plus sur une des chaînes. Non pas que jusqu'ici on n'ait pas eu le temps, ou qu'on ait eu autre chose à dire, mais que déjà on pense que c'est jamais vraiment très bon de danser sur un cadavre, et là surtout, y danser par des commentaires. Car on n'oubliera pas de saluer, aujourd'hui notamment, et les autres jours aussi, les actions des concernés. Les actions de celles et ceux résistants qui se font si souvent tirer comme des lapins. Alors, pas moins, nous dénoncerons la violence d'État forcément, qui est pour l'instant la seule qui soit en place. Violence d'État qui aujourd'hui, et sûrement hier, s'abat systématiquement sur toutes les formes de résistance. Et c'est bien de cela dont nous voulons parler, toute forme de résistance. Rien que le refus de se soumettre à un contrôle classiste, raciste, terroriste, eh bien, rien que par la fuite, on risque sa vie. Alors que ce soit un jeune des cités, un SDF du centre-ville, un braconnier des campagnes, un évadé d'une prison, un voleur dans un supermarché ou bien dans un bois, un braqueur dans une banque, un sans-papier dans un bidonville, un squatteur de partout, et bien sûr, un manifestant dans une ZAD. Tous, aujourd'hui, risquent d'être le lapin. Alors à tous ceux qui ne trouveraient aucune excuse à tous ces jolis lapins, et tout autant à Rémi qu'aux autres, eh bien nous dirons qu'ils résistent, tous ceux que j'ai cités avant. C'est-à-dire en soi, ils ne proposent peut-être pas le même projet, ni même en ont-ils un, mais par leur refus, ils empêchent la mise en place de quelque chose. Ils résistent. Alors j'entends déjà trop dire que résister, c'est pas suffisant. Et pourtant, aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Un jeune de cité qui refuse d'aller gonfler la queue devant un pôle emploi ou une intérim, ou même à l'usine, et qui pour autant, ne jouant pas à la mascarade républicaine d'une école de l'obéissance, n'a pas plus l'intention de finir SDF ou cloche, ou bien même cette cloche, ce zonard, ayant fait le choix, peut-être quelque part, de vivre sans toutes ces prothèses que chacun porte pour faire croire qu'il existe encore, eh bien lui sans tel, sans voiture, sans assurance, sans maison, etc., et qui par leur refus, d'abord de dégager d'une de ces nombreuses places du centre-ville, qui sont pour la plus grande partie désertées, tout en refusant d'être considérés comme un malade, juste parce qu'ils leur disent ce qu'ils en pensent à la police, ou plus clairement leur disent d'aller se faire foutre, ou simplement de leur foutre la paix, au risque, encore une fois, de se faire tuer, pour ne pas finir en HP. Tout comme un évadé qui, refusant d'être enfermé, enfermé comme un chien, refusant sa tôle et souvent des peines si lourdes, buté encore comme un chien, ah non, comme un lapin, un voleur des bois ou des supermarchés qui redistribue ou pas, volant des voleurs, refusant de ne pas y avoir droit, de ne pouvoir consommer que ce que son salaire lui permet, toujours dans la restriction, la frustration, refusant, risquant encore, sous les coups d'un vigile ou d'un flic trop zélé, sa vie. Et les sans-papiers, qui crèvent en venant, en arrivant, en essayant de rester, qui refusent, eux, les frontières, la vie dans leur pays, constamment pillé par l'Occident ou soumis à nos dictateurs, à nos guerres, à nos épidémies. Et bien sûr, un émeutier dans une ZAD. Voilà une liste non exhaustive des concernés, pour finalement, quand on y pense, et au vu de la situation tantôt catastrophique pour certains, catastrophiste pour les autres, au vu de l'intention des gouvernants de durcir l'ensemble de notre quotidien, et là on l'a déjà vu rien qu'avec la police, eh bien finalement, cela devrait assez vite concerner tout le monde, ou plus précisément, tous les pauvres, et tous ceux qui ne rentrent pas dans leur moule de plus en plus étroit. Alors à tous les lapins chasseurs, et aussi à ceux qui pensent que résister n'est pas suffisant, eh bien c'est le moment d'en parler. Oui, résister c'est bien, mais, et on l'a déjà vu malheureusement, ça concerne toujours que les attaquer, les agresser, les stigmatiser, les traquer, etc., permettant à tous les autres de ne pas se sentir concernés. Alors je vais reprendre un exemple simple. Ils disent, elles sont venues chercher les homos, je n'ai rien dit, je n'étais pas homo. Puis sont venus chercher les Roms, je n'ai rien dit, je n'étais pas Rome. Puis sont venus chercher les communistes. Puis sont venus chercher les juifs. Et après, ils sont venus me chercher. Mais c'était trop tard. Il n'y avait plus personne pour me défendre. Alors c'est là où résister n'est pas suffisant. Alors luttons. Lutter, mais non pas seulement pour refuser un morceau de ce monde qui sans cesse forme le tout, mais contre ce monde où il y aura toujours des flics, gentils ou pas, des prisons plus ou moins neuves et pleines, des usines ou autres mangeuses de vie, un quotidien tout aussi morose que fliqué, ou d'addiction en addiction, soumis à la domination, nos vies filent sans qu'on n'y fasse rien. Lutter pour être bien vivant, pour apprendre, comprendre et partager, partager nos luttes et nos désirs. Oser dire que la vie d'un jeune émeutier, qui aurait eu le temps de vieillir un peu, a beaucoup plus de sens que celle d'un docile policier. Même encore que se grouper, réfléchir ensemble pour se défendre, pour occuper un espace et affronter la police, a aujourd'hui beaucoup plus de sens que d'être un gendarme qui défend un carré de béton destructeur à coups de grenade. Et que si quelqu'un n'avait rien à faire là, eh bien, c'était eux, la police. Mais le bon sens n'est pas le sens d'aujourd'hui. Alors tous à contresens, dans la résistance. Solidarité avec les émeutiers de Villiers au Testet, du centre de rétention aux usines, de Kobané à Mexico. Reprenons du terrain avant qu'il n'ait déjà tout contaminé.
Bienvenue au pays de la double peine. Y'a du Chirac, du Sarko et du Le Pen. Nous le képi, nous traque sans répit. Répond à ses fonctions sans connaître le mot sommation. Où on libère Papon, le français de Vichy. Un carcère chouchou de place Clichy. Une basanée est un cliché. Fichu, fiché, fauché, recherché et puis lynché. Bienvenue ça, dans la crasse. Égalité des chances, où c'est à peau qu'on chasse. De place ou tutelle, de foyer en hôtel. Où les bâtis sont insalubres et mortels. Bienvenue où les prisons sont surpeuplées. Par de la banlieue comme d'un zoo à contempler. Moi t'embauche selon ton teint, tes lèvres et ton zen. Mais qui a dit soyons zen? La France, celle que je te livre, pour qui je n'ai que des insultes sur le bout de mes lèvres. Celle France, bleu, blanc, rouge, le flic, le porc, le bourge. La France, celle que je te livre, pour qui je n'ai que des insultes sur le bout de mes lèvres. Cette France, bleu, blanc, rouge, le flic, le porc, le bourge. Et la haine ne t'attend pas. Et la haine ne tâte pas d'hier, et la haine, et la haine, ne tâte pas d'hier.
La lettre qui suit est adressée par Farid El Yamni, frère de Wissam, assassiné par la police le 1er janvier 2012, à la mère de Rémi Fraisse. Il a voulu qu'elle soit rendue publique. À l'heure où sur Paris, on condamne les manifestations violentes et où on loue les sit-ins pacifiques, je vous écris cette lettre. J'ai perdu mon frère dans des conditions très proches de celles dans lesquelles vous avez perdu votre fils. Mon frère, qui prenait tant soin de ma mère, nous a quittés, il ne reviendra plus. La perte de mon frère était sur le coup une douleur immense que je ressens à chaque fois que l'État assassine à nouveau. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve, disait quelqu'un. À chaque fois que l'État assassine, on a aussi l'opportunité de l'arrêter, de le contraindre à changer et de rendre la dignité perdue à tous les autres. Par la mort de Rémi, se noue beaucoup plus que l'histoire d'une vie. Il se noue notre vie à tous, individuellement et collectivement. La criminalisation qui a été opérée est terrible. Ça a été la même chose pour nous. J'ai compris plus tard qu'elle était voulue. Je ne voulais qu'une chose, que la justice fasse la vérité et rende la dignité que méritait mon frère, dans le calme, et que cette histoire profite à tous, à nous les gouverner pour mieux nous aimer et à la police pour la réconcilier avec la nation. Je pensais que la police ne pouvait accepter dans ses rangs des assassins. Je ne la connaissais à l'époque pas assez. Je me trompais. Les quartiers ont brûlé, on a appelé au calme. Chaque voiture ou chaque poubelle brûlée était vécue comme une insulte, comme une épine en plein cœur, une épine sur laquelle on appuyait. Puis le temps est passé, on nous a promis la vérité, mais on n'a eu que des mensonges, que des fausses promesses, comme tant d'autres avant nous. On nous avait prévenus, mais on n'y croyait pas. François Hollande lui-même avait pris ma mère dans ses bras et lui avait promis qu'il nous aiderait à faire la lumière sur la mort de son fils. Sans la justice et la vérité, on vivait le temps qui passait comme une condamnation. Nous étions toujours en prison, à suffoquer et à appeler la justice à l'aide. Et puis on a compris que notre cas n'était pas isolé, que tant d'autres familles vivaient et vivent la même chose. Il y a tant d'humiliations et de mutilations commises consciemment par la police et couvertes par la justice. Tant. On a aussi découvert la manière de penser des policiers. Ça fait froid dans le dos. Voici un exemple. Mercredi dernier, suite à la manifestation sur Paris, un des policiers m'a dit « 1-0 » devant ses autres collègues au commissariat qui ricanaient lorsqu'ils me voyaient arborer le t-shirt « Urgence, notre police assassine ». Aucun ne l'a repris, aucun. Des exemples de ce genre, tant de Français en vivent quotidiennement. Ils n'en peuvent plus de cette police et n'en voient pas le bout. Je comprends l'appel au calme, on l'a également fait. Comprenez également que de nombreuses personnes ne croient plus en ce système qui donne une impunité de facto à la police. Comprenez que l'on ne peut concevoir la non-violence qu'à condition de supposer que le camp d'en face est capable de se remettre en cause. Ils en sont humainement incapables, parce qu'ils considèrent que remettre en cause la police, ce serait remettre en cause l'État. Depuis 40 ans, la police tue impunément, à répétition. Depuis 40 ans, on assiste à la même démarche pour noyer les meurtres de l'État, malgré les vidéos, les témoins, les évidences. Depuis 40 ans, il y a des sit-ins, des manifestations, des livres, des prises de position d'hommes politiques, des tribunes adressées au ministre de l'Intérieur. Depuis 40 ans, ça ne fonctionne pas. Voici comment ça se passe. Dépêche AFP, mensonge du procureur, enquête de mauvaise qualité et tronquée pour aboutir sur une condamnation ridicule après de nombreuses années, voire absence de condamnation. Le pire, c'est que ceux qui vont enterrer l'affaire auront des promotions et ceux qui ont tué nos frères, nos fils ou nos amis, eux seront traités comme des champions par leurs collègues. Telle est la réalité que vous vivrez vous aussi. Manuel Valls dit que les violences sont des insultes à la mémoire de Rémi. Mais sachez que Manuel Valls, par son inaction à combattre l'impunité policière, est le premier meurtrier de votre fils. C'est un criminel récidiviste. Il est venu à Clermont-Ferrand une semaine avant le rendu du rapport de contre-autopsie bidon dont il connaissait les aboutissants et il n'a parlé de l'affaire que pour mieux condamner les violences de ceux qui ont la mise à mort de mon frère révolté. Madame, les gens se battent pour Rémi, pour leur dignité et pour leurs idéaux. Ils se battent pour vous, pour nous tous, pour que la fraternité soit effective. Ceux qui se battent connaissent assez la malveillance de nos gouvernants pour comprendre qu'on tente de nous faire croire que nous sommes dans un état de droit, alors que nous sommes dans un état de devoir. L'État ne respecte pas la loi qu'il demande qu'on respecte. Il se joue de notre corps, de notre confiance, de notre argent et de notre dignité. Il nous demande d'être à genoux, c'est un impératif catégorique. Je vous ai écrit cette lettre, à vous comme à tous ceux qui me liront, pour vous faire savoir que je comprends aujourd'hui plus que jamais combien la non-violence dans les affaires de crimes d'État a ses limites. La non-violence, par son impuissance, est parfois plus condamnable, plus meurtrière que la violence elle-même. Les gens qui nous gouvernent sont malveillants, arrivistes, sadiques et récidivistes. Ils doivent partir par tous les moyens nécessaires. Farid El Yamni, frère de Wissam El Yamni, assassiné par la police le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand.
À l'image de la famille de Wissam, il y a d'autres familles qui se mobilisent un peu pour essayer de faire connaître les histoires tragiques où des policiers sont impliqués dans la mort de personnes, voilà, et souvent évidemment des jeunes des quartiers. Évidemment à Marseille c'est le cas aussi, il y a, bah, on pense notamment en 2013, le 13 février, à l'histoire de Yacine. Et le 13 février, donc, il y a un policier ivre qui a tiré plusieurs balles sur Yacine dans un commerce près de la cité de Félix Pia. Et Yacine est décédé des suites de ses blessures le 14 février à 7h du matin. Il est mort par balle, mort à cause de son profil, diront les journalistes. Yacine est présenté comme responsable de sa propre mort par les médias. Le policier a quand même été placé, cette fois fait un peu exception à la règle, en détention provisoire. A priori, il y a encore à l'heure actuelle à la prison de Villeneuve, près de Montpellier. Mais on se souvient que ça a été assez dur pour la famille, d'autant plus que des proches de Yacine se sont retrouvés enfermés à la même période. Notamment Tahar, l'ami de Yacine, qui était à ses côtés au moment des tirs et qui l'a conduit à l'hôpital, qui est revenu exprimer sa colère est venu vandaliser la boutique, et ça lui a valu d'être placé en détention du coup à cette période. Il y a aussi le frère de Yacine qui a été placé en garde à vue pendant le week-end où il y avait une mobilisation dans le quartier suite à cette mort, pour essayer de mobiliser autour de ça, et où on se souvient que des collectifs de famille d'ailleurs de Grasse, de Paris, étaient venus soutenir la famille de Yacine à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était en 2013. Là maintenant je vais vous parler d'une histoire qui est un peu plus récente, qui s'est déroulée au mois d'avril. C'était pas très loin d'ici non plus, c'était à Fontvert, dans le 14e. En fait, pour en parler, je vais laisser parler mieux que moi la tante de Morad, le jeune de 16 ans, qui est donc décédé le 1er avril à Fontvert, tombé du balcon, disent la version officielle. On verra que c'est un peu plus sombre que ça.
Tout ce qui s'est passé vraiment, enfin, c'est que le 1er avril, donc Morad Touat, s'est fait courser par un policier à Fontvert, et donc est parti se réfugier dans un appartement qu'il connaissait très bien. Donc le policier l'a suivi dans l'appartement. Aurait essayé de l'attraper alors qu'il essayait d'escalader le balcon. Et donc, ça l'a déstabilisé. Il est tombé du deuxième étage. Arrivé au bas de l'immeuble, un autre policier l'a secoué pour pouvoir l'arrêter. Et donc, il a convulsé. Il est tombé dans le coma. Il est décédé 4 jours après, donc le 5 avril, à l'hôpital Nord. D'après tous les témoignages qui sont venus à l'hôpital le 1er avril, donc le jour où il est tombé, alors il serait tombé vers 15h. La police a été tout de suite sur place. Par contre, les pompiers, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, comment, mais on sait qu'ils ne sont pas arrivés tout de suite. On sait qu'ils ont été appelés plus d'une heure après. Donc on ne sait pas pourquoi. Par contre, d'après les gens qui étaient sur place, le policier qui s'appelle Aziz, qui est rentré dans l'appartement, donc a poursuivi mon neveu. Ce policier-là, remontait à ses supérieurs en disant qu'il n'était pas rentré dans l'appartement. Donc après, il est revenu sur ses paroles. Ils ont appelé du renfort. Donc ils ont réglé leur histoire directement sur fond vert, alors que Morad était par terre encore. On sait qu'il a été secoué parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'hôpital pour nous dire que quand il est tombé, il a été en plus secoué par un autre policier qui s'appelle Amar Malki. Et qu'à partir de là, il a convulsé et il est parti dans le coma. Donc ils l'ont laissé à terre pendant presque une heure. Et on n'en sait pas plus. En fait, on n'en sait pas plus. Au niveau judiciaire, donc l'IGPN a pris l'affaire en main. Il n'y a pas eu d'enquête de fait, en fait. Il n'y a eu aucune enquête de fait. On devait nous convoquer pour avoir... nous appeler pour nous dire qu'on nous laissait une semaine pour pouvoir nous convoquer, pour pouvoir parler de Morad, en fait, de faire une enquête de moralité, je pense. Et donc, on n'a jamais été convoqué. Le dossier a été fermé le 10 juillet pour absence d'infraction. Donc on a décidé de saisir un juge d'instruction et de se porter partie civile et de faire ce qu'il fallait faire pour connaître enfin la vérité, savoir exactement de quoi est mort mon neveu, pour quelles raisons il n'y a pas eu d'enquête et savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ça. Parce qu'on est au courant de rien en fin de compte. Nous, ce qui nous met hors de nous, c'est que la Provence a décidé d'être juge. De juger Mourad. Elle a jugé Mourad le lendemain qu'il est tombé, donc elle a décidé que c'était un charbonneur. C'est la Provence qui le décide parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de condamnation, il n'y a rien. Il y a juste la Provence qui titre en gros c'est un charbonneur, il est mort. Voilà. Je pense que c'est pour l'opinion des gens, pour que les gens se disent « Oh, ben c'est pas grave, s'il avait 16 ans, c'est pas grave, c'était un charbonneur, donc on l'a lu ». J'ai l'impression que ça se passe à chaque fois comme ça, pour beaucoup de jeunes, mis à part, je parle pas que de mon neveu, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'autres jeunes qui sont passés dans ce cas, peut-être pas morts, mais qui sont aussi été victimes de ce genre d'agissement.
Et voilà, donc ça c'est un extrait de l'émission Libre Débat que vous pouvez retrouver sur le site Son Lutte ou sur le site de Radio Galère. Et voilà, où vous entendrez un peu plus en détail la tante et la mère de Mourad qui parlent de l'histoire, de l'enquête et à quel point c'est un sacré foutage de gueule cette enquête de l'IGPN qui conclut donc que Mourad s'est défenestré volontairement, sans même avoir pris la peine de par exemple entendre réellement la famille pour dresser le profil de Mourad concernant une éventuelle volonté de se donner la mort ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est vraiment du foutage de gueule où y a des témoins qui viennent dire que il y a des faux témoignages pour accabler les policiers alors que c'est le même témoin qui témoigne ça est lui-même agent des forces de l'ordre. Donc voilà, ça montre un peu avec quel mépris ce genre d'histoire, quand ça se passe dans des quartiers assez loin des caméras, sont traités. Et juste pour avoir un petit œil sur l'actualité et la régularité, la banalité de ces morts de personnes abattues par les forces de l'ordre, je vais lister les morts. Alors c'est pas une liste exhaustive, hein, parce que j'en ai moi-même rajouté à la liste que j'ai trouvée sur le site du collectif Urgence Notre Police Assassine. Mais voilà, c'est quelques histoires de personnes mortes, et ce depuis le mois de juillet. Alors le 29 juillet, c'est Dorel Yossif, Floréa, qui est abattu par un policier de la BAC dans une petite commune de l'Essonne. Et donc là, les médias, encore une fois, manipulateurs comme ils sont, vont oser jusqu'à dire que cette personne ne parlait pas français, qu'elle parlait uniquement roumain, comme si c'était une circonstance atténuante du fait de l'abattre. Le 21 août, c'est Abdelhak Gorafia qui meurt étouffé lors de son transfert entre le centre de rétention et l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, donc alors qu'il allait être expulsé. Donc la personne précédente dont je parlais, la famille a porté plainte. Là, c'est l'avocat de Abdelhak qui a porté plainte. Bon, pour le moment, voilà, on ne sait pas s'il y aura de réelles suites judiciaires à ces histoires-là. Le 24 août, près d'ici, à l'Estac, qui est un homme d'une trentaine d'années, qui est présenté par les médias comme membre de la communauté des gens du voyage, qui est abattu au terme d'une course-poursuite et suite à un vol de voiture. Donc voilà, là, pour le coup, l'identité de la personne n'est même pas révélée et il y a une forte chance qu'il n'y ait évidemment aucune suite judiciaire, puisque là, les policiers font valoir dans ce genre de cas la légitime défense, etc. Le 26 août, c'est Houssine Bourras qui est tué à Colmar, alors qu'il est menotté et dans un véhicule de police, et c'est pendant son transfert entre deux prisons. Le 5 septembre, à Paris, c'est un homme de 34 ans qui meurt après avoir reçu des coups de taser, donc de pistolet électrique. Le 17 octobre, à Toulouse, Timothée Lac, un homme de 20 ans, est abattu d'une balle dans le cœur par un policier de la BAC dans une supérette, donc c'était pendant un braquage, en tout cas c'est comme ça que les policiers se sont défendus de l'avoir tué. Et voilà, et le 2 novembre, donc Rémi Fraisse qui est tué par l'explosion d'une grenade, donc suite à des tirs tendus par la gendarmerie mobile, et c'était sur la ZAD du Testé. Bon voilà, on voit que donc ces derniers mois, y a eu quand même un peu d'autres histoires qui ont bien moins fait la une des médias. En moyenne, il y a entre 10 et 15 personnes qui meurent ainsi chaque année suite aux tirs ou aux coups de la police. Et faudrait aussi citer, mais là ce serait encore plus long, tous les trois jours une personne meurt tuée par la police, elle meurt enfermée. Il y a plus de 3000 personnes aussi qui sont mortes au large de Lampedusa en 10 ans, quelques dizaines encore récemment près de Ceuta, des personnes qui veulent traverser les frontières. Et puis incalculable aussi, c'est le nombre de personnes qui subissent des brutalités de la part de personnes dépositaires de l'autorité publique, et le plus souvent en étant par la suite en plus condamnées pour des violences et pour des outrages, voilà, suite à des plaintes déposées par les flics ou les matons pour se couvrir évidemment. Et voilà, donc la prison, la violence systémique de la police et de ce système, le harcèlement, la surveillance dans la rue. Tout ça opère comme une entreprise de nettoyage social, d'écrasement des révoltes et de toute forme d'auto-organisation populaire. La police distribue différents degrés de violence ou de complaisance selon la classe, la race, le genre des personnes qu'elle contrôle. Elle a ainsi toujours brutalisé, mutilé, tué certaines parties de la population, les miséreux, les marginaux, les prostituées, les habitants des quartiers les plus pauvres, les parties du prolétariat les plus ségrégées, exploitées, qui sont majoritairement issues de l'immigration et de la colonisation. La police, elle est chargée de dominer, de soumettre les classes sociales qui auraient le plus intérêt à se débarrasser du système parce qu'elles en bénéficient le moins. Un meurtre de militants ici en Europe, ça reste exceptionnel face à cette industrie de meurtres policiers de personnes pauvres, souvent non blancs. Les figures de Carlo Giuliani qui a été tué par la police à Gênes en 2001 lors des manifestations contre le sommet du G8, ou d'Alexandre Grigoropoulos tué à Athènes en 2008, ou donc celle de Rémi Fraisse, montre que toutefois l'assassinat de militants c'est pas anecdotique, et voir que ça tendrait à se développer en ces temps critiques de crise, etc., pour le capital, et voilà, et où finalement l'Occident s'en sort un peu moins bien qu'auparavant. Et alors, comme tous les crimes policiers, il ne s'agit pas de bavure donc ni de dysfonctionnement, mais il s'agit de mécaniques instituées, de tactiques, de stratégies légitimées, justifiées en haut lieu jusque dans les gestes des exécutants policiers. L'assassinat de Rémi Fraisse, c'est un meurtre d'État, un meurtre prémédité par la mise en œuvre et le maintien en place des structures qui l'ont rendu possible. Dans son activité quotidienne, la répression policière et judiciaire met au ban, brutalise, voire élimine les réfractaires. Elle accompagne les projets industriels dévastateurs, elle protège les intérêts des riches et les richesses des exploiteurs, en condamnant sans relâche les actes de celles et ceux qui s'y opposent, en pétrifiant les luttes et les insoumissions. La police applique des stratégies établies, elle expérimente de nouveaux dispositifs, de nouvelles armes, de nouvelles technologies sans cesse. À Saint-Denis, comme au Testé, ils opèrent de véritables quadrillages, des opérations militaires de maintien de l'ordre, de contrôle des foules. Toute nouvelle opération est une occasion d'expérimenter et ainsi de faire briller cette vitrine du savoir-faire français en matière de contre-insurrection. La mort d'un manifestant causée par une arme non létale lors de l'une de ces opérations n'est alors qu'une fausse note qui n'affectera pas la croissance des ventes de ces mêmes armes, ni l'export de ces pratiques et des théories qui y sont liées. La stratégie de contre-insurrection repose sur des méthodes d'action psychologique aussi, notamment en désignant, au sein même des victimes ou des personnes qui réagissent, des ennemis dont il faudrait se méfier, voire qu'il faudrait éliminer. Et ils construisent ainsi une figure de casseur, de braqueur violent, de racaille des cités, de charbonneur, de délinquant connu défavorablement des services de police, afin de diaboliser pour mieux masquer la violence du pouvoir, la violence des flics et des militaires, la violence des tribunaux et de la pénitentiaire, la violence des patrons et des actionnaires.
Yeah. Mike Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit.
5 points encore, la police est l'ennemi. Je souhaite la meute, personne ne vient. Ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance par tous les moyens nécessaires. Préparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique au flic.
Et pour continuer, on va juste revenir sur la présentation du bouquin de Mathieu Régouste qui s'appelle « La violence policière, une domination industrielle » qui revient un peu sur les prérogatives de la police et qui déconstruit aussi le mythe selon lequel les violences policières seraient des dérives. Alors qu'en fait, c'est inclus dans le système même de l'existence de la police.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
3 heures du mat, partout ça calte, les civils s'éclatent, qui est David?
Qui est Goliath?
Journalistes à terre, des caméras par terre, sur la vie de ma mère, la guérilla dégénère.
Sirène, fumigène,
ça sent le soufre, plus d'oxygène, on le sol dans le gouffre, la foule se disperse, personne ne veut partir. Trop tôt pour festoyer, trop tard pour reculer, ce soir la lune est pleine, ce soir je suis en veine, et tous les groupes j'assènent, font mal à l'indigène, et déjà la même scène, de Floride à Oni, pour la sirène, ce soir j'ai la santé.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que Babylone paye, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de paix sans que le poulet repose en paix, est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Ainsi soit-il.
C'est un bouquin qui part d'un constat de ce qui est appelé les violences policières, en gros de ce qu'on peut aussi appeler les bavures, et lui en fait son truc c'est de dire que ces bavures c'en est pas, que cette violence policière elle est organisée, elle est gérée, elle est influencée par plein de personnes, quoi que ce soit au niveau de l'État, des industriels. Et que en fait c'est pas juste des méchants flics qui pètent les plombs une fois et qui tirent sur quelqu'un et qui le tue. C'est pas du tout un hasard et que c'est en fait une violence qui est rationalisée, quoi. Qu'il n'y a pas de police non violente, mais que c'est pas non plus un bloc, quoi, que la police ça a pas toujours été la même, quoi, et qu'elle est en train de se restructurer, que la police elle a une histoire. Et lui il parle plus particulièrement de la police, ce qu'il appelle de la ségrégation néocoloniale, quoi, de la police qui est surtout appliquée aux immigrés et aux fils d'immigrés, quoi, aux non-blancs pauvres. Et il voit en fait d'où vient cette police et pourquoi est-ce qu'elle tue, elle tue autant et à quoi est-ce qu'elle sert, quoi, à qui elle sert. Donc en fait, ouais, l'auteur là, Mathieu Régouste, donc c'est un mec qui est assez jeune, qui a une trentaine d'années, qui lui est passé par des études de sociologie. Et donc utilise toutes les méthodes de la sociologie, quoi, pour étudier les violences policières et tout le système qu'il y a derrière. Et mais c'est quand même un mec qui justement a tendance à vachement critiquer la sociologie académique universitaire parce qu'il sait aussi que cette sociologie là, quoi, académique, elle sert en très très grande partie au contrôle, quoi. C'est-à-dire que à la fois des fois déjà pour diffuser des idées fausses, quoi. Ouais bah, par exemple c'est que la plupart des études qui sont faites sur les violences policières apparemment elles sont centrées sur toutes les initiatives de la police leur permettant de réduire leur propre violence. Et lui, il explique bien que toutes ces études, elles passent toujours à côté de toutes les brimades quotidiennes, les humiliations, les techniques d'étranglement, les fouilles au corps, les contrôles d'identité, les perquisitions, tous ces trucs qui font la vie quotidienne des gens. Tout ce qu'on disait, la police de proximité, par exemple, qui a été inventée par la gauche, et quand la droite dit « ouais, c'est une police qui va jouer au football avec les gamins », je veux dire, c'est juste du délire, quoi. C'est une police d'occupation qui est, elle aussi, vraiment héritée d'une... c'est ça de stratégie de contre-insurrection qui était utilisée dans le colonie, quoi. C'est le modèle, c'est un peu normalement que t'as une police d'occupation qui quadrille le terrain et qui empêche les gens de se mobiliser, qui coupe, enfin qui essaye de paralyser la vie sociale. Donc cette fameuse police de proximité, quoi, qui est là pour occuper le terrain. Et ensuite, t'as des brigades de choc, quoi. Toutes les BAC, RAID, GGN, BSN, RAID, tous ces trucs-là. Et les études académiques, elles sont complètement... qu'elles servent beaucoup plus l'État et ces mêmes personnes que lui, il essaye malgré tout d'en faire une arme, quoi, pour comprendre et pour pouvoir mieux répondre à toutes ces agressions qui leur sont faites, quoi. Lui, il explique vraiment dans le bouquin que cette violence policière, en fait, ça peut paraître bizarre au départ, mais qu'elle est liée aussi à des intérêts financiers. Il explique aussi que c'est en gros qu'au début des années 80 que les médias vont être complètement intégrés à la gestion de ces zones-là, quoi. Il explique il y avait déjà des émeutes et tout ça, enfin des trucs qui commençaient à faire du bruit dans les années 70, mais à partir des années 80, en fait, ils se sont saisis ils ont pris comme prétexte, en fait, l'histoire du rodéo, des rodéos de voitures aux Minguettes. Je crois que c'est les Minguettes, si je me trompe pas, c'est à Lyon. Et des grèves de travailleurs arabes pour en fait fabriquer un truc, c'est le problème d'intégration des immigrés. En fait, ça leur servait à criminaliser, quoi, les révoltes populaires en disant mais voilà, ces gens-là, en fait, leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à intégrer la culture française. Voilà, donc ça permet aussi, ça leur permettait de masquer tous les. Je l'ai déjà dit, quoi, l'exploitation. Au niveau du boulot, au niveau des conditions de logement, au niveau de l'école, au niveau de tous ces trucs-là, quoi, contre lesquels eux, ils manifestaient en réalité.
Laborieuse classe dangereuse, on se recède, on refuse nos destinées. Classe laborieuse, classe dangereuse, une grosse bagarre pour pas être sous-estimé. Classe laborieuse, classe dangereuse, on fout le bazar, chez nous ça reste dîné. Classe laborieuse, classe dangereuse, on prend les armes comme moyen de s'exprimer.
Dans les années 30, que le patronat français se réorganise à la fois contre la menace communiste qui émerge en 1917 en Russie et aussi qui fait face à une des premières grosses crises de suraccumulation du capitalisme en 1929, quoi. La bourse s'effondre, tout ça, le patronat se réorganise et décide d'avoir des nouvelles sources de profit en investissant à mort dans le marché militaire. Et de fil en aiguille, en fait, puisque là, c'est pas à proprement parler le marché de l'armement, quoi, qui est utilisé par la police, en tout cas, enfin, c'est un dérivé, mais pas tout à fait, quoi. C'est vraiment apparemment dans les années 60 que ce qu'il appelle le marché de la coercition, tout le marché du matériel, des techniques de police, quoi, c'est à partir du moment là où ça explose. Et par exemple, il donne un exemple, c'est vraiment dans l'après 68, dans les rapports, quoi, qui sont faits, dans les retours d'expérience qui sont faits, quoi, de la gestion, des émeutes et des manifestations, on dit, il y a un gros problème de mobilité dans la police, de mobilité, quoi, à ce moment-là. Et ça va, en fait, à partir de ces rapports-là, ça va ouvrir tout un marché, quoi, pour justement, par exemple, les véhicules policiers, quoi. Les canons à eau, les transports de troupes, des boucliers amovibles sur les camions, les unités motocyclistes, quoi, qui sont connues pour avoir tué Malik Houssekine et tout ça, enfin, qui ont disparu après. Justement, pour générer ce marché-là, il faut créer aussi des menaces intérieures, quoi, la figure d'ennemis intérieurs. Donc ça c'est créé par les rapports, quoi. Il y a des gens, dans un de ses autres bouquins qui s'appelle « Les marchands de peur », il analyse vachement ça avec le marché de la vidéosurveillance, quoi, avec des mecs comme Alain Bauer, quoi, que vous avez forcément vu à la télé. qui sont à la fois experts, qui passent sur tous les plateaux télé pour dire « Oulala, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de délinquance, il faut de plus en plus de contrôle, de vidéosurveillance. » Et bizarrement, ce même Alain Bauer, qui est expert, qui fait des rapports ministériels et tout ça, eh ben, il a une entreprise qui s'appelle AB Associates, autant que je me rappelle, quoi, et qui vend, quoi. Donc, il crée à la fois le besoin et ensuite, il vend tout son petit business et il s'en met plein les fouilles, quoi. Donc, ce système-là, en fait, il marche pour la vidéosurveillance, mais évidemment, c'est pas les premiers qui ont inventé ça, quoi. Il marche pour tout le matériel, pour l'exportation des techniques, la gestion du personnel policier, tout ça, quoi. Et évidemment, bon là c'est juste des exemples, un petit aparté, mais il y a plein de lois, par exemple dans les années 80, qui ont ouvert ce marché-là, quoi. Par exemple, il y a une loi du 12 juillet 83 qui autorise le port d'armes à feu en dehors de la police nationale pour les convoyeurs de fonds. Voilà, ça c'est qu'un petit exemple, quoi, mais c'est comme ça que tu ouvres des marchés, que tu permets aux industriels de s'en mettre plein les fouilles. T'as, à partir de 86, il y a tout un processus de dénationalisation des industries publiques de l'armement. Et par exemple, entre 81 et 95, le nombre d'entreprises de sécurité, il va être multiplié par 4. Donc il y a vraiment des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, quoi. Et évidemment, quand on dit qu'il y a des mecs qui s'en mettent plein les fouilles, c'est les industriels, mais faut bien se dire que quand tu ouvres des marchés comme ça, quand tu es politique, que tu diriges et que tu permets l'ouverture de ce type de marché, eh ben forcément, t'es rétribué de différentes manières. Et la première, c'est l'argent, quoi. Il prend l'exemple du flashball, donc ce qu'il appelle les lanceurs de balles non perforantes. Et en fait, il regarde comment ça s'est développé. Donc, par exemple, il voit qu'au départ, ça a été utilisé dans la bande de Gaza, quoi, par l'armée israélienne, ou je crois que c'est en Ulster, par l'armée anglaise, et donc c'est du matériel qui est directement militaire et qui était utilisé en gros pour réduire le risque d'insurrection, quoi. Apparemment, l'utilisation de l'arme lourde contre les populations, ça provoque plus d'émeutes et de bordel à gérer pour eux. En France, bon, évidemment, c'est une entreprise là, qui s'appelle Vernet Caron, qui est spécialisée dans les fusils de chasse, quoi. C'est le plus ancien et le premier producteur de fusils de chasse en France. Donc c'est eux qui développent ça. Au départ, c'est pour pouvoir stopper du gibier en pleine course, quoi. Donc c'est utilisé pour ça au départ. Donc ils donnent ça d'abord en 95 au RAID et au GIGN, et puis ensuite à la BAC et aux polices de proximité à partir de 98, quoi, sur un modèle plus compact, quoi. Et évidemment, c'est toujours des gros marchés, quoi, qui se comptent en millions d'euros. Ouais, pareil, ça c'est des détails qui n'en sont pas. Bon, donc évidemment, l'utilisation de tous ces flashballs, ça leur permet en fait de rendre les violences plus, en tout cas de leur point de vue, plus acceptables. Et il y a de plus en plus de gens qui sont blessés, quoi, mâchoire fracturée, éborgnée. Il n'y a pas que les flashballs, quoi, qui blessent, mais ça en partie. Et évidemment, à chaque fois, c'est impunité policière, quoi. C'est très très rare les gens qui sont, enfin les flics qui sont condamnés pour ce genre de choses-là. L'entreprise même qui produit les flashballs explique qu'il y a, une précision qui est de l'ordre de 60 cm. Donc en même temps, t'as le ministère de l'Intérieur qui, quand il y a une révolte ou quoi par rapport à l'utilisation des flashballs, lance des directives et médiatiquement explique qu'il fait passer le message aux troupes de ne surtout pas tirer dans la tête et dans le triangle génital. Mais en même temps, celui qui construit les flashballs dit que c'est pas précis à mieux que 60 cm. Donc en gros, ces mecs-là, ça veut juste dire qu'ils sont couverts administrativement. Ils peuvent tirer dans la tête puisqu'ils ont visé le nombril, mais 60 cm plus haut, il y avait la tête. Et donc celui qui construit les flashballs peut attester et tout le monde repart avec un non-lieu. Donc voilà. Après, il y a toute l'histoire des tasers, des drones. C'est un marché monstrueux, quoi, notamment avec un truc qui développe un peu sur l'immigration clandestine. Et là, tout ce qui est technique de fichage, de contrôle, de surveillance des frontières, tout ce qui est drones, navires, hélicos, infrastructures électroniques, traçage biométrique, tout ça, c'est des, au niveau de l'Europe, c'est des dizaines de millions d'euros, quoi. C'est juste délirant, quoi. La France est reconnue pour son excellence entre guillemets, évidemment, dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire que généralement il y a assez peu de morts. Voilà, même s'il y a plein de blessés, il y a assez peu de morts. Et que dès qu'un État veut se présenter comme démocratique, c'est quand même plutôt intéressant, quoi. On a d'abord exporté les techniques de contre-insurrection un peu partout dans le monde. Notamment en Amérique du Sud, pour savoir comment torturer, comment tuer les gens, comment faire des rafles, faire disparaître les opposants.
Toutes ces techniques étaient inspirées de la guerre d'Algérie.
Complètement, ouais, tout à fait. Et là, maintenant, en fait, on exporte du maintien de l'ordre, quoi. Donc c'est une bonne, une gentille petite tradition française, quoi, qui permet aux industriels de s'en mettre plein les fouilles.
Et de contrôler la main-d'œuvre.
Et évidemment, de contrôler la main-d'œuvre.
Je t'envoie la puissance, conservant mon avance. Tout en transcendance, un à un.
Ouais, nique la police, vous êtes sur une des chaînes. Et bah voilà, pour continuer à parler un peu de autour de ces histoires de violences policières et de gens qui se mobilisent par rapport à ça, bah déjà, je vais citer, on a cité Mathieu Rigouste pour conseil de lecture, je vais citer aussi le bouquin Permis de tuer qui a été écrit par le collectif Angleboin et avec la contribution de plusieurs collectifs de familles de victimes de violences policières, et voilà. Et puis bah vous pouvez aussi contacter du coup tous les collectifs, notamment la famille de Mourad, voilà, en cherchant sur internet, sur Facebook notamment. Et voilà, pour revenir sur les réactions suite à la mort de Rémi Fraisse et les manifestations, voilà, bah vous le savez, si vous écoutez un peu les médias, il y a des manifestations qui ont eu lieu un peu partout en France. Et des manifestations face à laquelle une répression assez intense s'est déployée, avec des arrestations préventives, à nouveau des violences policières, mutilations avec les armes dans l'État et autres. Et puis la justice a pris le relais, puisqu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont été placées en détention provisoire en attente de jugement, et aussi déjà des personnes condamnées à plusieurs mois de prison ferme, ça va jusqu'à 6 mois les condamnations. Notamment voilà, à Saint-Denis, à Lyon, à Blois, à Toulouse, et j'en passe. Et voilà, bah, du coup, pour les manifs et ceux qui voudraient s'y rendre, il y a peut-être quelques petits conseils à donner et que on peut écouter dans le montage qui suit.
Quelques conseils juridiques en vue des manifestations interdites ou pas.
En cas d'interpellation et de violence policière. Témoin.
Si vous êtes témoin d'une arrestation, il faut le gueuler qu'il y a une arrestation qui est en train de se faire juste à côté, et comme ça, les gens qui sont autour, ils peuvent faire bloc face aux 2-3 flics qui essayent d'arrêter la personne, et ainsi empêcher l'arrestation. Et plein de fois, le simple fait de faire bloc face au keuf, ça a permis à ce que la personne elle, se fasse pas serrer. Si vous êtes témoin ou proche d'une personne interpellée, rapprochez-vous des organisateurs de la manif ou de l'équipe légale, là, s'il y en a une, pour signaler l'arrestation en décrivant la personne arrêtée, l'heure et le lieu de l'arrestation. Si vous êtes témoin de violences policières, c'est pas mal de prendre des images, si c'est possible, de noter les lieux et heures des événements, puis les transmettre aux organisateurs. Ils peuvent alimenter les procédures juridiques à l'initiative des manifestants ou les plaintes émanant de la police.
Victime.
Si vous êtes victime d'une arrestation, il y a quand même souvent un risque que les flics portent plainte pour rébellion si vous vous débattez, ou qu'ils portent plainte pour outrage si vous vous énervez. Souvent, en règle générale, le délit d'outrage et rébellion, les flics s'en servent soit pour masquer leur propre violence, soit pour justifier une arrestation qui n'a pas lieu d'être. Lorsque vous êtes interpellé, vous pouvez faire l'objet d'un contrôle d'identité, d'une vérification d'identité qui durera au maximum 4 heures. Ça, c'est le cadre légal. Au-delà, on doit vous notifier une garde à vue. Et celle-ci, elle commence dès l'heure de votre interpellation et dure 24 heures. Et elle est renouvelable à 48 heures. Lorsqu'on vous interroge, c'est quand même mieux de ne rien dire ou de répondre par « je n'ai rien à déclarer ». Il faut savoir que c'est votre droit et qu'on ne peut pas vous pénaliser. C'est au juge qui va décider... de votre culpabilité ou pas, et c'est pas les flics. Et tout ce que vous allez dire aux policiers, ça pourra être utilisé contre vous. Vous pouvez refuser le prélèvement de l'ADN, mais vous risquez aussi une condamnation. Lorsque la garde à vue est prolongée à 48 heures, il s'en suivra une convocation remise par la police pour un procès ultérieur, une comparution devant le procureur de la République en vue d'une convocation ultérieure à un procès, vous pouvez être retenu jusqu'à 20 heures au dépôt en attente de cette comparution, ou bien une comparution immédiate devant le juge qui est suivie d'une condamnation dans la foulée.
Note. Alors, il est conseillé de refuser la comparution immédiate, parce que c'est souvent une justice expéditive avec des condamnations plus lourdes. En cas de refus de comparution, il peut arriver que le juge, s'il estime que vous êtes susceptible de ne pas vous représenter à la prochaine appel, vous place en détention préventive. Mais si vous pouvez justifier d'un domicile et d'un emploi fixe, il y a peu de chances que ça se produise. Si vous refusez la comparution immédiate, vous aurez plusieurs semaines, voire des mois, pour préparer votre défense, voilà, ce qui est quand même mieux.
En garde à vue, vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en connaissez pas, les flics vous colleront ce qu'on appelle un commis d'office, c'est-à-dire les avocats qui sont de permanence ce jour-là.
Note, Il y a un certain nombre d'avocats commis d'office qui seront de mauvais conseils et qui vous conseilleront d'accepter la comparution immédiate, voire même d'avouer. Voilà, faut éviter de les écouter aveuglément. Ils sont souvent inexpérimentés en matière pénale ou voire non sympathisants de votre cause. Voilà, donc évitez d'écouter son avocat commis d'office s'il vous dit d'accepter une comparution immédiate, par exemple.
Dans la manifestation, gaz.
Les gaz agissent plus facilement avec l'effort et la panique. Donc restez calme, essayez de ne pas courir et courez que s'il y a une charge policière à plus ou moins 50 mètres de vous, à vous estimer. Pour vous protéger des gaz, couvrez-vous la bouche avec un foulard imbibé d'eau citronnée, par exemple, mais surtout respirez calmement et prévoyez aussi, si possible, du liquide physiologique pour vous laver les yeux. Ne ramassez jamais les palets de gaz à main nue car ils peuvent notamment occasionner des brûlures sévères. Mais en plus aussi, il peut se trouver que ce soit une grenade et à ce moment, elle peut être encore explosive. Lavez-vous au savon dès que vous rentrez chez vous et mettez tous vos vêtements au lavage car les gaz ont une persistance de 45 jours et sont résistants à l'eau toute seule. Il faut donc mettre de la lessive.
Tire.
En cas d'usage des flashballs, essayez de se tenir hors des lignes de vue, derrière une voiture, un arbre bien sûr, éventuellement derrière une barricade ou même une banderole de protection. Savoir que leur portée des flashballs peut aller jusqu'à 150 mètres et est très dangereux encore à 30 mètres. Voilà.
Images et caméras.
De nombreuses caméras de vidéosurveillance ont été déployées dans tout l'espace public, alors prenez garde à ne rien commettre de répréhensible qui puisse être établi par cette même vidéosurveillance. Quant à l'implantation donc de ces caméras dans plusieurs villes françaises, elles ont été cartographiées sur le site sous-surveillance.net. Aussi, ne prenez pas d'images qui pourraient servir à établir votre propre participation à des actes répréhensibles. Ne prenez pas d'images qui pourraient servir à établir votre participation à des actes répréhensibles en cas d'arrestation, à savoir que les cartes SIM sont facilement analysées par la police. Ne publiez pas d'images qui puissent permettre l'identification des auteurs d'actes répréhensibles. Quoi que vous en pensez, les peines qui sont encourues peuvent se révéler très très lourdes. Pensez à effacer les métadonnées incluses dans vos photos avant de les publier en ligne. Elles contiennent beaucoup d'informations sur le lieu, l'heure, le type d'appareil employé. Éventuellement, ne mettez aucune image en ligne.
Communication.
Ne communiquez pas d'informations, ça peut paraître un peu bête, mais effectivement, ne parlez pas dans votre téléphone de choses qui pourraient vous être ensuite reprochées, que ce soit dans des appels ou dans des SMS. Éteignez votre téléphone si vous pensez risquer une interpellation et retirez la carte SIM pour éviter sa saisie. Ne dites rien pendant la manifestation qui puisse nuire à un tiers ou à vous-même. Il y a toujours un certain nombre de policiers en civil qui sont susceptibles d'être présents et de vous entendre. Ne colportez pas des informations non vérifiées. Les rumeurs peuvent occasionner des mouvements de panique et des conséquences graves.
Vêtements et protection.
La dissimulation du visage est condamnable par la loi. Alors débarrassez-vous de tout ce qui peut vous incriminer si vous risquez une fouille ou une interpellation. Incriminée, c'est-à-dire une cagoule, un masque, etc. Le port de protections spécifiques type gilet pare-balles, masque de ski, bouclier, etc. peuvent vous valoir d'être incriminé d'attroupement en vue d'un mouvement armé. Alors attention de ne pas les conserver et à vous en débarrasser, si possible, dans une bouche d'égout ou un autre endroit inaccessible.
Fumigène.
L'utilisation ou le port de feux de Bengale et de fumigène peut vouloir d'être incriminé pour port d'explosifs. Alors attention à ne pas les conserver sur vous en cas de barrage et de fouille policière. Et aussi, quand vous en faites l'usage, utilisez des gants. C'est toujours mieux pour votre protection, mais aussi pour ne pas laisser vos empreintes ou ADN et conduire à des condamnations ultérieures. Bonne émeute.
Viens, fais pour ta gueule, charognard, pour la... ta gueule.
La mort ne vient pas seule. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. Putain, j'ai la connerie humaine comme horizon funèbre. Et le regard des curieux comme unique linceul. Même le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots. Chaque fois qu'il y a un sale coup, bah faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine. Dit un ancien para, quelques arrivistes. Ces mecs là c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard.
Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent. Qu'on est un être humain même si on est truand. Ma mise à mort n'a rien de légitime.
Et s'ils prenaient ta mère comme otage, ton frère.
Dis un père béret basque, un jeune besoin de cuir.
Si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère.
Répond le jeune pour finir. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire. Convaincu que déjà mon âme est chez le diable. Que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. Ça ne comportera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
Pour ta peau.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Les 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles et je crève aux Champs-Élysées.
Elle n'a même pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort.
Et c'est bien fait pour sa gueule.
Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ces quelques larmes me réchauffent le corps.
Ce n'est qu'un petit salaud.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre-Charron. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau.
On portera pas le deuil.
C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Et c'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
La mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule. Tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau.
Charognard. Renault, laisse du neuf. Bon, beat, il est un peu plus speed. Mais t'as vu le lyrics, il a pas pris une ride.
Ouais, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Une des chaînes sur le 88.4 et bah du coup pour rebondir un peu sur tout ce qu'on va entendre et puis surtout pour rire et puis pour saluer aussi l'acte qui a été fait, à savoir que bah on va entendre une déclaration de l'assemblée du plateau de Mille Vaches. Et sur le plateau de Mille Vaches, donc c'est dans la Creuse, il y a 80-100 personnes qui sont allées bloquer une gendarmerie, c'est-à-dire qu'ils ont cadenassé un peu les portillons pour enfermer les gendarmes à l'intérieur. Et voilà, bah on écoute pour rire.
Considérant que manifester ne doit pas se réduire à simplement défiler dans des rues policées
mais bien à faire plier les gouvernants par tout moyen adéquat. Considérant que ce n'est pas à ceux qui organisent une répression meurtrière de définir ce qu'est la violence en désignant quelques vitrines cassées. Considérant que les prétendues forces de l'ordre ont pourtant reçu les armes et les consignes à même de briser tout ce qui ne serait pas un défilé policé. Considérant que depuis des années maintenant, elles appliquent une doctrine de maintien de l'ordre consistant à blesser, éborgner, larder la chair des manifestants d'éclats de métal, et cela à dessein. Considérant qu'une telle stratégie, en blesser un pour en effrayer 100, vise essentiellement à dissuader quiconque de manifester, vise à établir comme normal le fait que désobéir puisse se payer d'un œil, d'un nez, d'une mâchoire, voire désormais de la vie. Considérant que la mort de Rémi Fraisse n'est en effet pas le fruit d'une bavure, mais la conséquence logique d'une telle stratégie. Considérant que même après le meurtre contesté, les forces de l'ordre ont continué à utiliser des armes similaires à celles qui a causé la mort de Rémi, comme en témoignent les manifestants attaqués ou blessés par des grenades offensives ou des grenades de désencerclement ce samedi 1er novembre à Nantes et Toulouse. Considérant qu'il est plausible que de tels événements se reproduisent. Considérant que la stratégie de communication cyniquement mise en œuvre par le gouvernement dans de telles occasions consiste d'une part à contrôler la circulation des informations afin de contenir l'émotion populaire, d'autre part à mettre en cause de petits groupes organisés d'émeutiers, là même où c'est toute la population qui, par sa présence résolue, appuie l'émeute. Considérant que ce n'est bien évidemment pas les émeutiers qui sont complètement isolés de la population, mais bel et bien le gouvernement et sa police. Considérant que les forces de police n'ont de légitimité que celle de l'ordre politique qu'elles conspirent à maintenir. Considérant l'espèce que le présent ordre politique n'a lui-même plus un gramme de légitimité et que par voie de conséquence les forces de police non plus. Considérant qu'à peu près tout le monde déteste la police, y compris les policiers eux-mêmes. Considérant que la gendarmerie est partout comme un corps étranger qu'il convient d'extirper de la population. Considérant enfin que ces gens sont armés et dangereux et qu'ils sont finalement assimilables à une milice au service d'intérêts tout autres que ceux du peuple. Considérant que l'humanité a vécu sans police pendant assez de siècles et en assez de lieux pour trouver en elle toutes les ressources d'une vie débarrassée de pareilles verrues. Considérant que nous sommes bien assez grands pour trancher nos conflits et penser nos façons de vivre par nous-mêmes. Nous, Assemblée populaire du plateau de Mille Vaches, appelons tous et chacun dans les jours qui viennent à se rendre en masse devant les commissariats, gendarmeries et casernes, afin d'y bloquer par tous les moyens nécessaires, piquets, soudures, cadenas, murets, etc., la sortie des uniformes globalement inutiles, malfaisants, et régulièrement assassin qui les peuple.
Ah, vous avez reconnu le style de NDChaîne, vous étiez bien dans les émissions de NDChaîne. Et voilà, non plus, la rue n'est pas faite pour être policier, même si on manifeste pas, considérant qu'ils sont aussi inutiles les jours de manif que les jours où il n'y en a pas.
Et ouais, en attendant d'aller bloquer les commissariats et les gendarmeries, bah, comme vous le savez, un peu partout il y a des lycéens qui commencent à bloquer un peu leur lycée, à bouger de ci, de là, à faire des manifs. Et bah, Marseille aussi.
Et donc, Assemblée contre les violences policières, je vais vous lire le petit appel qui circule sur Internet. Vital, Michalon, Malek Koussikine, Zied et Bouna, Rémi Fraisse, si ces noms sont connus, d'autres restent inconnus parce qu'ils ne sont ni des symboles, ni des facilités médiatiques. La police tue, mutile, humilie, dans les commissariats, dans les rues, dans les manifs et les mouvements de grève. Pour eux, tous les moyens sont bons pour nous enfermer dans nos misères, nos galères, leur travail de merde. Face à ces violences policières, des organisations liées aux partis de gauche récupèrent, détournent la volonté des proches de pointer du doigt les responsabilités de la police, de la justice et de l'État. D'un autre côté, certains tentent, en collectif, de manière autonome, et parfois en assemblée, de s'organiser concrètement face à la police et à la justice. Certaines fois juste pour ne pas tomber dans l'oubli. Voilà, et donc ils appellent pour s'organiser ensemble sur le problème des violences policières. Ils essaient de réunir toute personne ou collectif concerné. Et c'est donc jeudi 20 novembre au kiosque, une assemblée publique, à laquelle ils invitent toute personne, collectif ou organisation, qui souhaite mettre en commun des outils, des pratiques de lutte contre les violences policières. Jeudi 20 novembre, 18h au kiosque, et il y a un contact, c'est Mars contre les violences policières at riseup.net.
Voilà, parce que désarmer la police, c'est déjà s'armer un petit peu. Alors, tous les jeunes, on espère, futurs vieux, voilà, qui voudront garder leurs mains et leurs yeux, eh bien, ce serait peut-être le jour aujourd'hui de les ouvrir, les yeux et les mains, s'ils veulent les garder.
Hands up, don't shoot.
Et donc pareil dans l'agenda, là c'est on part beaucoup plus loin, mais un peu voilà comme on l'a dit de Kobané au testé, c'est la rue du comité Marseille Rojava, c'est pas une agence de voyage. Et c'est 18h30 vendredi à la passerelle, donc voilà un comité pour faire une passerelle entre Marseille et Rojava. Vous y êtes largement invités parce que c'est tout début, c'est tout prémisse, et ça laisse éventuellement présager voilà de belles actions et aussi de belles rencontres. Donc largement invité pour en parler et faire savoir. Rojava, pour rappeler, c'est un petit peu plus loin, quoi. La passerelle, ça se situe dans le premier arrondissement, rue des Trois Mâches. Et voilà, et Rojava, c'est pas très loin de Kobané aussi. Un peu précisé, peut-être.
Eh ben, ND Chaîne, la semaine prochaine.
Et bah, d'ici là, dans la rue.
Et d'ici là, dans la rue.